livre de conviction que vous avez proposé là, dans ce titre de parti pris, qui veut dire beaucoup de choses déjà, je pense. Donc c'est un livre que vous êtes venu me présenter à la Gvali il y a déjà de nombreuses années. Et je pense qu'à ce moment-là, il était déjà dans vos tiroirs. Donc il a mis le temps pour naître au grand jour. Et donc peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots, parce que c'est vrai que c'est un petit peu un ovni, sachant que vous êtes plutôt des artistes vidéastes, performeurs. Et donc là, cette espèce d'enchaînement de planches, avec une typographie un peu à la machine à écrire, comme ça. Donc c'était pas tellement ce qu'on attendait de vous, je pense. Ça a dû désarçonner plusieurs personnes qui ont découvert ce livre. Comment est venu ce projet de livre particulier?
En fait, il n'y avait pas de but précis au départ. Hein. À part que j'avais une zine, donc il y a plus de 20 ans, je voulais écrire un livre. Sur quoi, je ne savais pas. Sur qui non plus. Documenter ou pas, ou ta poésie, etc. Je me dis, la poésie, c'est peut-être pas plus facile pour moi. Et en fin de compte, après un certain temps, j'ai très vite compris que je n'étais pas écrivain. Et je me suis dit, mais il y a tellement d'écrivains que moi j'aime bien, que j'aime beaucoup. Et je me dis que ils avaient des mots, ils avaient des phrases à eux qui étaient très importantes, très intéressantes. Et je me suis dit, je vais chipper un peu chez eux, à gauche et à droite. Alors j'ai joué mon propre jeu. C'est-à-dire que j'ai étalé toutes sortes de livres de tous les écrivains. Donc ça pouvait passer de William Burroughs à Edgar Poe, par exemple. Je ne cite que ces deux-là, alors qu'il y en avait une centaine.
Nostradamus.
Il y avait Nostradamus dedans. Enfin, il y avait même des poètes suisses régionaux. Enfin, c'était...
Les Suisses.
Oui, les Suisses. J'ai étalé tout ça et puis j'ai commencé à lire. Mais deux mots-là, un mot-là. Mais le cerveau a vite compris, c'est-à-dire que le cerveau, lui, il veut remettre un peu d'ordre là-dedans. Et mon regard, en fait, dictait... C'est mon cerveau qui prenait les mots. Donc à un moment donné, j'étais tellement omnibulé par ça que je devais très vite transcrire ce que je lisais, parce que sinon on fallait remplir la boule. Et alors, et ces mots faisaient un tout. Et c'était toujours surprenant, naturellement, ça a pu comme prendre des jouets, on les mélange, on jette tout par terre, quand on est gosse, on fait ça, et puis on se dit, waouh, maintenant on va faire quelque chose avec. Et à partir de ça, il a fallu 20 ans. C'était pas 20 ans d'écriture assidue, mais c'était 20 ans de doute. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que je fais? Etc. Et c'est parti de là, J'écoutais de la musique répétitive aussi à ce moment-là, donc j'ai commencé dans les années 80, 79-80. William Burroughs, par exemple, qui faisait son cut-up, couper le texte en 4, 1, 2, 3, 4, puis mélange 1, 2, 3, 4, on fait 1, 3, 2, 4, par exemple. Et je trouvais ça un peu trop simple, alors que bon, le système était bien, il était intéressant, et je me suis dit, mais non, moi, tous mes petits mots que je prends à gauche et à droite, ça va exploser, et en effet, ça explose. Et puis je suis tombé sur le film Shining, donc il est sorti à cette époque-là, je ne sais pas quand, et j'ai vu qu'à un moment donné, Nicholson, celui qui tient le rôle du timbré dans le film, l'homme à l'âge, a écrit la même phrase, il a répété la même phrase, mais en bloc de papier. Je me dis, mais c'est ça mon livre, c'est ça que, ça c'est vraiment chouette, la répétition. Et alors, je me dis, mais la répétition fait que on a l'impression d'être sûr de soi. On a l'impression de dire, je sais ce que je suis en train de dire, comme Donald Trump. Il dit, hein, l'Amérique d'abord, first, America first, et il répète ça la dernière fois parce qu'il ne décortique rien. Sauf que moi, mes phrases sont un peu plus intelligentes quand même. Je ne décortique pas, je laisse quand même comme ça, mais j'ai des accidents. J'ai des répétitions, j'ai des accidents. Et avec Shining, c'est un peu ça. Et je me dis, alors, à ce moment-là, mais c'est un mensonge. C'est ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de quelque chose, donc on le répète. Ça, pour moi, c'est intéressant. Parti pris, c'est quelque chose d'intéressant aussi dans le but. C'est-à-dire que quand on est pour un parti pris, on est à ça du mur. Et on ne peut faire qu'une chose, c'est se casser la figure. Il n'y a que ça que l'on peut faire.
surtout si c'est soi-disant un parti pris qui baigne dans le sang, qui baigne dans la violence, parce que ça baigne dans la violence. Ça baigne dans la je vous dirai demain ce qui va arriver, etc. Alors, personne qui sait, personne ne sait. Et tout ça fait que on nage dans un brouhaha et on ne s'en sort pas et on se casse la figure. Juste encore un dernier petit mot. En fait, tout ça, c'est venu quelques années auparavant. Je prenais le bus, je regardais par la fenêtre et j'entendais des gens qui parlaient dans le bus. Alors, il y en a un qui a engueulé sa femme. J'entendais derrière, il va me jeter, mon chéri. N'oublie pas le navet, hein, me fait. Ah ouais. Et tout ça faisait que il y avait des mots qui étaient plus forts que d'autres, donc je les mettais à l'avant. Mais je faisais des phrases. Mon cerveau, en fait, essayait de faire des phrases avec ça. Et je me suis dit, mais le bus est rempli de poésie. Et c'est à partir de ça que. Et puis, notamment, je suis adopté, j'ai fait tout le trajet que je vous ai raconté pour arriver à. Que vous avez en main.
Voilà. Ça, c'est la partie guide. C'est quand même signé Guido Lu.
J'en ai pas terminé, moi.
Alors, Guido, il avait 1500 pages dans la cave pendant 10 ans. Et puis, on a été ressortir les pages. Et moi, j'ai commencé à sélectionner, à sortir ce qui était mieux. Et puis de plus en plus, on a épuré. Il y avait des longues phrases, on en a retiré l'essence, donc ça s'est rétréci. Et puis alors, à un moment donné, on était arrivé, je ne sais plus, peut-être 250 phrases, que tu commençais déjà à écrire sous forme de répétitif. Moi, j'ai écrit pendant 3 mois. Donc c'est lui qui faisait l'écriture répétitive. Et alors, moi, je prenais toutes les phrases les unes derrière les autres. Et je disais non, ce chapitre-là doit remonter plus haut, cette phrase-là elle doit être plus loin, celle-là il faut l'évacuer pour avoir. Si vous voulez, moi j'ai participé au fil rouge qui fait qu'il y a quand même un commencement et une fin. Ça c'est une chose. Il faut dire aussi que bon, Guido et moi on travaille depuis 25 ans, et depuis qu'on a commencé à travailler, il y a eu toujours 3 mots-clés qui se retrouvent mais dans tous nos travaux, même si on ne fait pas exprès, c'est critique, clinique et ludique. En général, on connaît le travail de Guy Delu pour son côté ludique et critique. Pour ceux qui savent bien lire et analyser les vidéos. Et ici, on a, je crois, le nec plus ultra du côté clinique.
Que ce sera pour nous,
par rapport à notre travail. On n'a jamais fait quelque chose d'aussi froid visuellement. Il y a quand même le côté ludique dans le côté des mises en page, de la... Comment est-ce que je dis, comment on dit, pas la calligraphie, la typographie. Donc là, il y a un côté ludique. Et le côté critique, là, si vous commencez à lire un livre, je vous conseille de boire un bon verre après.
juste un tout petit conseil pour lire le livre. Vous lisez le livre normalement comme tous les livres. Sauf que vous ne le répétez pas tous, sinon il y aura une grosse tête. Donc, quand une fois ça se répète, il y a parfois des tout petits changements de ça, je vous laisse découvrir plus tard. Vous changez de page. Donc, vous passez à la page suivante. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a un fil rouge qui va se décanter là. Et vous allez tout doucement vers l'ersatz, vers le traficoté, etc. Et puis,
voilà toute l'histoire.
Et c'est une phrase de Nostradamus qu'on découvre.
Il y a quelques mots de Nostradamus. Oui. Ah, oui. Celui qui connaît un tout petit peu Nostradamus, il va dire ça c'est de là. Parce que dès qu'il y a aigle et lion, c'est Nostradamus.
Alors, parce que le livre, quand on l'a en main, c'est quand même un tour de force typographique, effectivement. Tu as parlé d'une structure générative aléatoire pour la production de texte, mais pour la production des pages aussi. Est-ce que là aussi vous avez un programme qui génère des pages comme ça, ou bien voilà, qu'est-ce qui a amené à composer ces pages, parce qu'elles sont toutes différentes aussi?
Oui, ça c'est le hasard qui jouit énormément. Comme quand j'ai pêché tous les mots chez tout le monde, comme ça, il y avait le hasard qui jouait.
Quand j'ai commencé à répéter les quelques premiers mots que j'avais, je répétais, et puis je répète. Donc je répétais, si vous voulez, dans le sens horizontal, puis dans le sens vertical. Souvent, automatiquement, les programmes, quel que soit le programme d'ailleurs, essayent de rectifier et mettent tout en colonne. Alors moi, les premières pages, c'est pour ça qu'elles sont en colonne, je les ai gardées. Et toutes les pages étaient en colonne. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est vraiment pas intéressant. Et j'ai commencé à jouer avec les interstices entre les mots, etc. Mais imperceptible. Mais alors, le programme calcule le tout. Donc, il se fourvoie. Il ne comprend plus ce qu'il doit faire, etc. Parce qu'on ne lui dit pas la lumière. Donc, à ce moment-là, hop, il commence à décaler. Donc, en fait, c'est pour ça que j'appelle les pages sur des petits napperons. Les petits napperons, c'est-à-dire qu'une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Hein.